Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et oui, Franck Ferrand est là, fidèle au poste avec dans sa besace de nouvelles histoires croustillantes. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Croustillante, je crois que l'épithète convient à l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle d'un des plus fabuleux héritages de tous les temps. Or, qui dit héritage dit souvent querelle d'héritier. Nous allons voir tout à l'heure qu'il est parfois nécessaire de recourir à des généalogistes.
Et ce sont du reste des généalogistes qui sont vos invités cet après-midi.
Oui, Mathieu Andriveau, des archives Andriveau, un des plus grands cabinets de généalogie en France. Et puis, une voix que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, Jean-Louis Bocarnot, qui n'est, vous allez voir, jamais à court d'anecdotes.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
L'histoire que je vais vous raconter, je le sais bien, ressemble à un roman et même à un conte, et pourtant, elle est parfaitement authentique. Le testament dont je vais faire état existe, il est aux archives nationales, il est encore valide à l'heure où je vous parle, et l'affaire en question, cette incroyable affaire de Jean-Thierry Marchand de Venise, n'est toujours pas réglée. Tout commence dans une auberge de Brescia, où c'est très joli Brescia, vous savez, c'est dans le nord de l'Italie, ça faisait partie à l'époque des états de Venise. On est là aux alentours de l'an 1600. Un beau jour, sur les coups de midi, se présente dans une des auberges de ce gros bourg italien, donc, se présente un voyageur vêtu de velours, bordé de fourrure, vêtu de brocart. On ne le sait pas encore dans l'auberge, mais il s'agit d'un certain Athénase Tipaldi, très riche marchand de Venise, d'origine grecque. Tandis que les volailles achèvent de dorer sur la broche, le voyageur s'installe, il réclame à boire et le garçon d'auberge, c'est lui, c'est notre Jean Thierry, s'efforce de le distraire. Jean Gianni, pour les habitués de l'auberge, est encore jeune, il est assez beau, il est plein de vie et de malice, il parle avec un fort accent français, bref, il a quelque chose d'exotique, et le voilà qui, pour distraire le client, se met à raconter sa vie au marchand de Venise. Sa famille, dit-il, est d'origine lorraine. Elle s'est divisée en trois branches, dont l'une s'est installée à Bâle, la deuxième est restée en Lorraine, et la troisième, la sienne, est venu s'installer en Champagne, à Château-Thierry exactement. « Mon grand-père, explique Gianni, était gendarme du roi de France. Il a eu trois fils, dont mon père, François Thierry. Les temps étant trop durs, je suis venu chercher fortune jusqu'au-delà des Alpes, jusqu'ici, en la cité de Brescia. » « Et tu es satisfait de ton état ?» lui demande Tipaldi. « Oh, sauf le respect dû à votre seigneurie, il faudrait que j'aie piètre idée de mon destin, » répond Gianni. Le jeune aventurier d'emblée a plu au marchand de Venise qui lui propose de l'emmener avec lui et de voyager à travers le vaste monde. Vous comprenez déjà ce qui va arriver. Athénase Tipaldi est très riche, il n'est plus si jeune, il est dépourvu de descendance, il va se prendre d'affection pour le petit français et il va faire de lui dans un premier temps son associé. Leur négoce se porte bien, on est dans ces temps de contre-réforme où le commerce reprend, pendant des années, pendant des décennies même, Jean Thierry s'impose comme la cheville ouvrière de la maison Tipaldi, si bien qu'en 1636, quand le marchand de Venise vient à mourir, il est richissime et toujours sans enfant bien entendu. Quand il meurt, il fait de son associé et ami son légataire universel. Et voilà donc notre Jean Thierry, originaire de Château-Thierry en Champagne. Le voilà à la tête d'un fabuleux héritage qu'il n'aura de cesse d'accroître encore et toujours au fil d'une vie très très longue, très très laborieuse. Jean meurt en 1675, il n'est pas loin d'être centenaire à l'époque, et son avoir à ce moment-là est évalué à quelque 57 millions de livres d'or. Autant dire un patrimoine gigantesque, l'une des toutes premières fortunes privées du monde à l'époque. Pas mal quand même pour un garçon d'auberge expatrié. Jean, comme son bienfaiteur, n'a pas d'héritier direct, raison de plus pour lui d'établir un testament très soigné, très précis. Après tout, n'a-t-il pas toujours en tout fait preuve de soin et de précision ? Alors le voici, ce fameux document. On le possède, je vous l'ai dit, encore aujourd'hui. Au nom du Seigneur, ainsi soit-il. L'an de grâce 1654, le 10 février, est comparu à mon étude de Corfou, près de l'église métropole appelée Saint-Spyridon, et par devant moi Saint-Omida, notaire public de la ville de Corfou et de tout l'État vénitien, Jean Thierry, saint d'esprit et de corps, français de nation de la province de Champagne, du lieu dit Château-Thierry, diocèse de Reims, fameux marchand et négociant navigateur, lequel a déclaré par devant moi et les témoins sous-signés vouloir faire son testament en me signifiant sa dernière volonté et avoir l'intention de se retirer dans la capitale de Venise et d'y vivre et mourir dans la maison des dénommés Mora. Ainsi qu'il l'a déclaré, et que comme l'heure de notre mort est aussi incertaine que notre mort est certaine, en conséquence, il voulait donner son âme à Dieu, son corps à la terre, et disposer de ses biens conformément à son bon plaisir et à sa conscience. Je vous passe tous les détails suivants, notamment le résumé par Jean Thierry lui-même de ses pérégrinations et des hasards de sa fortune. Nous en arrivons à la matière vive du testament. J'appelle à ma succession les Thierry de Champagne, c'est-à-dire les fils de monsieur mon père et de madame ma mère, née Françoise Bricot, pourvu qu'ils soient du lit dont je suis né. Item, je prie messieurs Thierry de Champagne de ne pas abandonner ceux de Lorraine et de Bâle, mais je dis que les vrais et légitimes héritiers sont ceux de Champagne, fils de François Thierry mon père, auquel après ma mort j'abandonne tout mon avoir, et en l'absence de ceux de Champagne, à ceux de Bâle ainsi qu'à ceux de Lorraine à défaut des deux autres. Le testament indique aussi diverses donations à faire à des hôpitaux et à des œuvres. On dit que rédiger son testament ne fait pas mourir, ben c'est le cas pour Jean Thierry, puisqu'il n'a rendu l'âme que 22 ans plus tard, donc en 1675. Il est inhumé en l'église vénitienne des Théatins. Son tombeau sera détruit plus tard au moment de l'occupation autrichienne. Et c'est ici, vous l'avez compris, que commence l'une des plus extraordinaires histoires de succession de tous les temps.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1, l'histoire d'un fabuleux héritage, Franck.
Alors il serait trop long, Julia, de dresser l'inventaire de l'extravagante fortune en or, en monnaies diverses, en palais, en maisons, en terrains, en navires, en objets d'art de toutes sortes, laissés par Jean Thierry à sa mort à Venise. On est donc à la fin du XVIIe. L'équivalent, je vous l'ai dit, de 57 millions de livres d'or. J'aime pas me risquer à ce genre de comparaison, mais disons qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, ça se compterait en milliards et même en nombreux milliards d'euros. Ce qui est certain, c'est que pour ses héritiers, les Thierry de Champagne, il s'agit d'une manne, d'une pluie d'or absolument invraisemblable. Alors qui sont-ils, ces heureux héritiers? D'abord, les quatre frères de Jean, Gilbert, Pierre, Nicolas et Zacharie, et leurs fils. Et puis après eux, les frères, Pierre et Claude du père, et leurs propres descendants, sans oublier, parce que le testament le précise, rappelez-vous, les branches de Bâle et de Lorraine. Mais ça reste ambigu, ça, parce qu'on ne sait pas quoi leur donner. En attendant, l'exécution du testament, qui a été confiée au Seigneur Mora, donc chez qui Jean s'était retiré pour vieillir et mourir, l'immense fortune a été confiée au bon soin de la Banque de Venise, la célèbre Zecca. Le signor Mora, sénateur de la Sérénissime République, se met donc en route pour la France, pour aller chercher les héritiers. Quand je dis la France, vous pensez la Champagne? Eh bien pas du tout. Monsieur Mora file droit vers Paris. Vous me direz, c'est sur sa route, oui, sauf qu'il a tendance à s'installer dans la capitale. En vérité, le sénateur Mora va s'acoquiner à Paris avec trois commis des affaires étrangères et des finances, et dans la foulée, on va voir de mystérieux émissaires se rendre en Champagne pour détruire systématiquement les registres de baptême des différentes paroisses où sont nés les ayants droit du pauvre Jean Thierry, qui devient Jean le Trahi. Le plus extraordinaire, c'est qu'après avoir fait affirmer par de faux témoins que le sieur François Thierry, père de Jean, était mort sans héritier, les trois commis en question ont quand même trouvé le moyen de se faire accorder par brevet du roi, Louis XIV. Vous imaginez l'importance de la fraude, ils se sont fait accorder la succession Thierry. On peut imaginer que le sénateur Mora n'a pas été oublié dans l'arrangement. Et voilà que, sept années durant, de 1679 à 1686, les trois commis malhonnêtes vont réussir à se faire verser par la République de Venise une rente, tenez-vous bien, d'1 240 000 livres d'or. Mais les choses n'en restent pas là, car entre-temps, 1681 est arrivé à Venise muni d'une recommandation du roi un certain Guyot de Vertamont, qui se présente comme héritier de Jean Thierry, il réclame son dû, on lui oppose le brevet qui dès lors apparaît pour ce qu'il est et fait l'objet d'un procès, les trois commis malhonnêtes seront finalement condamnés à mort, mais par contumace, parce qu'entre-temps, ils ont eu le temps et ils ont eu les moyens de s'enfuir jusqu'en Hollande. N'en concluez pas que c'est tout bon pour le fameux Vertamont, parce que celui-ci, qui est incapable de faire reconnaître ses droits successoraux, est finalement débouté en 1700. Alors évidemment, tous ces procès vont avoir un effet politique évident. Ils attirent l'attention du gouvernement de Venise sur l'immense fortune déposée par le feu Thierry dans les coffres de la Zecca. Et vous pouvez désormais faire confiance au doge de la Sérénissime pour exiger en échange la production de documents généalogiques très précis, très incontestables. Vous voulez l'argent? Fournissez-nous les preuves. Autant dire que l'héritage de Jean Thierry, ancien aubergiste devenu négociant, ne sortira plus de Venise. Tout de même, en 1710, on compte plus de 7000 prétendants, plus ou moins légitimes, et plutôt moins que plus, à la succession de Jean Thierry. D'innombrables procédures sont de nouveau intentées, mais intentées devant des juridictions françaises, ce qui à nouveau n'a pour effet que d'attirer l'attention, cette fois du gouvernement français. Du coup, en 1697, Louis XIV met opposition à la succession Thierry. Le but de la France, c'est de récupérer l'immense fortune de l'ancien aubergiste et de la verser au trésor royal. Je passe sur un arrêt des requêtes de l'Hôtel du Roi en date du 18 mars 1747, sur un autre pris directement en Conseil du Roi le 20 novembre 1782. Toutes les parties seront déboutées en 1784. De nouvelles procédures sont intentées sous la Révolution, mais finalement c'est le Directoire qui, profitant de la campagne d'Italie, ordonnera au général Bonaparte de faire main basse au nom de la République française sur les avoirs de la succession Thierry, déposés toujours à la Zecca de Venise. Bonaparte obéit, au passage il se sert dans le tas pour payer son armée et il envoie le reste à Paris, avec les intérêts, ça qui vaut des dizaines de milliards de nos euros. Il envoie 22 charrettes bourrées d'or, escortées par 3000 cavaliers sous les ordres de Berthier en personne. On fait très attention à ce convoi d'or, évidemment.
Extrait sur Europe 1 de l'épithalame de Shylock Franck.
Dès lors, bien sûr, vous comprenez que c'est vers l'État français que doivent se... Shylock, hein, c'est le marchand de Venise,
le marchand de Venise,
tout simplement.
Bien sûr.
C'est vers l'État français que doivent se retourner les prétendants à la succession de Jean Thierry. Ils sont devenus des milliers et les procès se succèdent. L'un des héritiers les plus déterminés, je devrais dire l'une des héritières, ce sera Madame Coton, qui à partir de 1870 va se mettre en tête de récupérer son héritage. Elle assigne l'État français en 1908 et puis en 1913, elle est déboutée. Bien d'autres tenteront leur chance avec un procès retentissant en 1928, intenté devant le tribunal de la Seine par un retraité de marine. En 1937, à Gand, se constitue un syndicat de défense de tous les héritiers Thierry. Et dès l'année suivante, le gouvernement nomme un expert en généalogie. 35 descendants se voient à ce moment-là proposer 28 millions de francs de l'époque, quand même. Un congrès d'héritiers se tient à Cologne en 1969 et réclame 12 milliards de francs. Et à l'heure où je vous parle, les héritiers de Jean Thierry, ils sont forcément devenus innombrables, n'ont toujours pas perçu leur dû. Le testament de Corfou est demeuré lettre morte. Pauvre Jean Thierry, il avait peaufiné sa succession. Sans doute avait-il mal choisi son exécuteur testamentaire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous passons maintenant à la partie magazine et nous intéressons aujourd'hui à la généalogie, Franck.
Et oui, et cette histoire de Jean Thierry que je vous ai racontée un peu à la hussarde, je l'ai trouvée dans un ouvrage très amusant qui vient de sortir de presse et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Ce livre est signé de notre confrère et ami Jean-Louis Bocarnot. Jean-Louis Bocarnot que vous retrouverez chez Emmanuel Faux dès demain à 9h. Ça s'intitule Le tout politique parce qu'il y est question de nos hommes et de nos femmes politiques d'aujourd'hui, mais envisagés sous l'angle de leur ascendance, de tous leurs ancêtres, de leur généalogie, etc. En tout cas, essentiellement sous cet angle. Eh bien, figurez-vous que se trouve parmi les descendants, non pas de Jean Thierry lui-même, mais de son grand-père, Renaud Thierry du Corpois, un certain François Fillon, c'est-à-dire que notre Premier ministre fait partie des éventuels ayant droit de cette fabuleuse fortune de Jean Thierry. Avouez que le raccourci est étonnant et nous en parlons en ligne avec Jean-Louis Bocarnot. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Franck.
Merci de nous accorder ce petit entretien, j'allais dire en avant-première, à la grande interview de demain. C'est un ouvrage passionnant. On y découvre des choses assez étonnantes sur nos hommes politiques.
Oui, on va tout détailler demain. Mais
et nos femmes politiques.
François Fillon pourrait remplir les caisses de l'État avec son héritage. Le problème, c'est que pour les remplir, il faudrait les vider.
Oui, voilà.
Non, c'est pas vraiment la solution.
C'est pas très facile, finalement, cette histoire. On est avec la généalogie toujours. On a l'impression qu'on est toujours dans l'ambiguïté. C'est ce qui est passionnant, ces histoires de cousinage, d'arbres généalogiques. C'est toujours à la fois complexe, passionnant. Ce sont nos racines, tout simplement. Je pense que nous sommes très, quand je dis je suis sûr que nous sommes très nombreux en France à nous passionner pour cette discipline. Vous avez été, vous, Jean-Louis, un de ceux qui, en France, lui ont rendu, peut-être pas cette lettre de noblesse qu'elle n'avait d'ailleurs pas perdue, mais lui ont donné sa popularité.
Oui, c'est ma gloire. Je l'ai démocratisé. Je crois qu'effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Passionné de généalogie, je suis arrivé à une opportunité de lancer des rubriques et des émissions sur les médias, surtout sur les radios, à une époque où ça commençait à bien démarrer, et donc ça a permis de la développer, et surtout, je crois, de la démocratiser, parce que longtemps, c'était resté un peu le précaré des familles de la noblesse, de la bourgeoisie, enfin,
alors
de ceux qui avaient le temps de s'intéresser à ça.
Il faut peut-être revenir sur les origines du métier. Au départ, avant les généalogistes professionnels, il y avait les héraldistes. Et on pense à la célèbre famille d'Osier, bien entendu.
Il y a plusieurs métiers. Il y avait les héraldistes que le roi chargeait de faire et de vérifier les généalogies. Pourquoi ? Parce que, par exemple, pour entrer dans certaines écoles royales, militaires, etc., les enfants devaient pouvoir prouver qu'ils étaient nobles. Parce que pour aller être présenté officiellement au roi sous Louis XV, en ce qu'on appelait les honneurs de la cour, ou des provinciaux, des noblayons de province...
Il fallait présenter des quartiers de noblesse, comme on disait.
Voilà, il fallait prouver que pour monter dans ces carrosses brinque-ballant avec des ressorts cassés, etc., on accompagnait le roi, et puis à 50 mètres, on lui était présenté, on faisait une belle révérence, et voilà, on était content, on partait content, mais il fallait prouver aussi qu'on était noble. Et puis surtout, il fallait vérifier que ces nobles qui étaient exemptés de certains impôts étaient exemptés à juste titre.
Oui.
Donc c'était les finances aussi qui étaient importantes.
Donc ça, c'est le premier métier des généalogistes, c'est le métier d'héraldiste.
À une époque, Louis XIV a même tiré sur la ficelle parce qu'il s'est dit « Allons-y, mes caisses sont vides, je vais faire enregistrer les blasons et les faire taxer, et tant qu'à faire, eh ben, on va dire que toute famille de certains standings doit avoir un blason ». On va aller leur inventer s'il faut. Et
d'où des blasons d'ailleurs complètement insolites pour certains.
Et à ce moment-là, on a rempli les caisses.
On a fait des blasons qui étaient parfois carrément des jeux de mots sur les noms de famille, par exemple.
Tout était bon. Pourvu que ce ne soit pas un blason existant, on faisait Monsieur Saplier, se trouvait avec un sac de gueule lié d'or. Le gueule, c'était la couleur rouge, et avec un petit ruban d'or. Monsieur Douéré, on a cherché longtemps. On a mis un agneau dans un filet, parce que doux comme un agneau.
Voilà. Je crois que c'est le nôtre qui avait des artichauts sur son.
Voilà,
sur
son et Fouquet des écureuils, parce
voilà,
que Fouquet est un écureuil en Anjou.
Alors, par la suite, le métier, j'allais dire, se professionnalise.
Alors, on est là au début
du 19e.
Dans différentes directions. Vous avez d'abord, je dirais, les marchands de merlettes, ce qu'on appelait les marchands de merlettes, c'est-à-dire qui fabriquaient des blasons et qui fabriquaient surtout des généalogies de complaisance. Parce que la révolution ayant éclaté, on ne pouvait plus être anobli. Et certaines familles qui avaient monté et qui avaient réussi en rêvaient quand même. Donc, elles se faisaient fabriquer des généalogies de complaisance par de mauvais généalogistes qui trituraient les archives et qui arrivaient toujours à les raccrocher à quelqu'un de bien. Et puis, parallèlement, s'est développée la généalogie successorale avec un monsieur Tranois dont l'étude a été rachetée par les Andrivaux, grande dynastie de généalogistes.
Et Mathieu Andrivaux est avec nous dans ce studio, voilà, donc on va lui parler.
Et parallèlement, après, sont arrivées une autre dynastie avec les Couteaux, qui aujourd'hui sont devenus Couteaux-Rorig, autre grande famille et grand nom de la généalogie successorale. Et au XXe siècle, je dirais, apparaissent une nouvelle profession qui sont ce qu'on appelle les généalogistes familiaux, qui sont des généalogistes à la disposition, contre rémunération, mais qui vont être là pour faire les recherches des personnes qui n'ont pas le temps de faire leur arbre généalogique et qui veulent savoir d'où elles viennent.
C'est ça, vous voulez savoir qui étaient vos arrière-arrière-grands-parents, et bien vous faites appel à un généalogiste familial. Là, ça n'est plus pour des recherches de succession, évidemment.
Vous tapez généalogiste familial sur Google et vous arrivez sur des sites de chambre syndicale où vous aurez des chercheurs tout à fait recommandables et excellents.
Mais les hommes et les femmes politiques dont vous nous parlez dans cet ouvrage, Le Tout Politique, Jean-Louis Beaucarnot, ils ne vous ont rien demandé quant à leurs origines ou à leur cousinage. Vous êtes allé chercher de vous-même.
Je les ai cherchés de moi-même parce que ce sont des personnalités publiques. Et souvent, sur l'antenne d'Europe 1, avec Laurent Cabrol, le dimanche matin, nous évoquions les noms de l'actualité, donc les noms des politiques. Nous avons travaillé longtemps pendant la période électorale en amont des élections de 2007. Donc, nous avions visité un petit peu toutes ces généalogies.
Il y a beaucoup de surprises, il y a des choses assez étonnantes. Mais
on ne peut que s'étonner.
Je ne veux pas tout déflorer. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis Beaucarnot de nous avoir raconté d'où venait la généalogie et les généalogistes. Combien y a-t-il actuellement en gros de généalogistes amateurs en France ?
79% des Français sont passionnés par la généalogie.
Ah bon, bah c'est
61%
énorme.
Ont fait de vraies recherches. Donc aujourd'hui c'est par millions qu'on les compte.
Par millions et par dizaines de millions.
Et tous sur des sites comme Généanet, généalogie.com, etc., sur des forums. Enfin, c'est une pratique intensive et un phénomène de société
et
très très fort.
Il faut dire que Internet a joué un rôle important aussi, puisque ça a relancé la généalogie.
Absolument.
Quand vous tapez votre nom sur Internet et que d'un seul coup apparaissent vos cousins, ça vous incite évidemment à chercher en savoir davantage.
Mais souvent, on se retrouve, on tape son nom et on se retrouve en plein milieu d'un arbre généalogique.
Ah oui, c'est
ça. Et on se dit, Mais où on est, nous, là-dedans, et voilà.
On se cherche.
On s'est piégé.
Merci beaucoup. On se cherchait, on vous a trouvé, Jean-Louis Beaucarnot. Le Tout Politique, c'est édité aux éditions de l'Archipel. Vous avez sous-titré ça, Qui sont-ils vraiment ? Ce sont les origines, les cousinages, les parcours, les personnalités
et
toutes sortes d'indiscrétions sur les candidats à l'élection présidentielle et un certain nombre d'autres personnalités du monde politique.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Le papa du papa du papa de mon papa était un petit piou-piou. La maman du papa de mon papa, elle était nounou. Lui, son nom, c'était Aimé Dépêche, elle s'appelait Amélie Vite. Et attendez, vous allez voir la suite. Le papa du papa de mon papa s'affolait pour les mollets. La maman du papa de mon papa qui rêvait de convoler. Quand Aimé lutinait les jolis mollets moulés de la mon Amélie. Elle frétillait, tortillait comme l'anguille à l'anguille.
Le papa du papa de mon papa, le truculent Bobby Lapointe sur Europe 1.
Des millions de passionnés pour la généalogie en France, mais quelques vrais généalogistes dont c'est le métier. Et parmi les plus sérieux, les mieux établis en France, figurent évidemment les archivants Andrivaux. Bonjour Mathieu Andrivaux.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Alors, cette maison, depuis quand existe-t-elle ? Depuis quand votre famille fait-elle de la généalogie ?
Eh bien, cette belle maison, elle a été créée par un de mes aïeuls en 1830. Cet aïeul était un clerc de notaire qui travaillait dans l'Orléanais.
Donc on est là au moment de la monarchie de Juillet, un moment, ce qu'il faut dire, très important socialement, puisque on est à la recherche justement de ses racines. Certains veulent s'apparenter à la noblesse, certains essaient plutôt de cacher leurs origines. Enfin, c'est intéressant, on est 40 ans après la Révolution française.
Hein. C'est vrai, mais le métier d'où je viens, c'est un métier qui n'a plus énormément de racines avec la généalogie
héraldique.
Puisque, très concrètement, ce clerc de notaire, il a été nommé pour rechercher, par son patron notaire, des héritiers qui n'étaient plus aujourd'hui dans le canton, dans le bourg, dans lequel se réglait la succession. Il a dû donc partir dans le département, dans les villes alentours, est revenu quelques temps plus tard avec une partie des héritiers qui n'étaient pas connus du notaire. Et c'est de là où est parti le métier. Et il s'est dit, eh bien je crois que un service peut être proposé au notaire de France. Et c'est comme ça.
Parce que le problème, c'est que certains notaires se retrouvent en face de fortunes, plus ou moins importantes, qui n'ont pas d'héritiers, évident. Donc il faut rechercher les héritiers.
Eh bien, effectivement, il y a deux possibilités. Vous pouvez être en face d'une personne qui décède sans postérité connue, mais vous pouvez être en face d'une famille qui est là pour partie. Hein ? Évidemment, si vous n'avez pas de frères et sœurs, eh bien ce sera vos cousins qui viendront à la succession, mais vos cousins, ils sont issus de votre branche paternelle, et de votre branche maternelle. Alors, vous pouvez très bien avoir les seuls héritiers dans la branche paternelle. Il faudra donc retrouver les autres cousins dans la branche maternelle.
J'imagine que du point de vue du droit, tout ça est extrêmement codifié. Hein. Il y a des ordres, un ordre de succession très établi.
La dévolution successorale est codifiée par le Code civil. Effectivement, en 1905, les choses ont été réglées. Hein.
Avant, c'était un peu plus confus. Et notamment, il fallait tenir compte d'un certain nombre de traditions régionales. Notamment, il y avait, la France ne s'est pas faite en un jour. Il y avait des traditions successorales qui étaient très différentes en fonction des provinces.
Exactement. Mais la République à régler tout ça.
À tout unifier. Ouais. Alors, il faut d'abord s'assurer que la personne qui meurt n'a pas laissé un testament. Vous racontez dans ce livre une anecdote très drôle. C'est bourré d'anecdotes. Hein. C'est, d'abord, j'allais
ce sont
dire,
des anecdotes.
Il n'y a que ça. Hein, parce que, oui, c'est ça. Ça s'appelle Petites histoires de généalogistes. Et ce sont toutes les histoires, enfin certaines des histoires qui vous sont arrivées au cours de cette
Exactement.
très longue
Depuis
carrière.
L'écriture de ce livre, il y en a d'autres qui sont arrivées. Elles arrivent tous les jours à l'étude.
Alors là, en l'occurrence, c'est un monsieur de 81 ans, dites-vous, qui était né à Alexandrie en Égypte à la fin du 19e siècle et qui se trouve, alors on avait quand même son dossier de naturalisation, ce qui permettait de savoir, il datait de 1923 ce dossier, ce qui permettait d'en savoir un peu plus sur lui, et puis il meurt, on est obligé de chercher ses héritiers. Alors on fait des recherches, expliquez-nous, ça c'est très long, on fouille partout dans tous les dossiers, ce sont des recherches qui vous emmènent en Égypte, qui vous ramènent en France, enfin on imagine que c'est un véritable travail d'enquêteur comme celui d'un détective privé, hein, littéralement. Et puis, in fine, on arrive dans l'appartement de ce monsieur, on ouvre son coffre ayant trouvé enfin tous ses héritiers et on se rend compte qu'il y a un testament dans le coffre et que le testament donne tout à des œuvres charitables.
Eh bien oui. La personne, il y avait donc une seule héritière en l'état qui venait à la succession, elle était londonienne, cette dame. C'était des chrétiens d'Orient. Et on était allé la voir, on était très heureux d'ailleurs, après énormément de travail, de l'avoir retrouvée. Mais malheureusement, effectivement, lorsque l'inventaire fut venu, fut découvert un testament. Celui-ci, léguait l'universalité des biens à une œuvre caritative.
Ce qui veut dire qu'il vaut mieux faire quand même l'inventaire avant de se mettre à la recherche.
Oui, mais ce n'est pas possible.
C'est pas possible.
Non, l'inventaire ne peut être diligenté que par les héritiers eux-mêmes.
Ouais, donc, de toute façon, on avait réuni tout ce monde-là pour rien. Bon, ça peut arriver.
Ça arrive, voilà. Ce sont les risques du métier. Comme on dit.
Vous êtes vous-même, puisque vous êtes généalogiste, c'est le moment de vous poser la question. Vous êtes à quelle génération de chercheurs chez Andrivaux?
Alors, écoutez, ma généalogie est assez simple. je suis la 6e génération. Voilà, j'ai aujourd'hui 3 filles en très bas âge. Il faudra peut-être qu'un jour, je leur parle du métier.
Et oui, elles pourront prendre la suite et continuer à faire ces recherches extraordinaires. Avec vous, Mathieu Andrivaux, dans un instant, nous revenons sur la méthode, sur les techniques même de la généalogie. Comment s'y prend-on? Comment retrouve-t-on des héritiers?
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les albums familiaux sont les manuels d'histoire. Qu'on regarde jamais, qu'on réserve au placard. Quand il était jeune, quand était petit, quand elle était enceinte, quand ils étaient en vie. Portrait de fin d'année, des gosses trop bien peignés, on dirait vraiment qu'ils ont mangé du ciment. Les grands derrière, les petits devant. La photo censurée, elle s'y trouvait pas belle, aussitôt développée, direct à la poubelle. Mignonne en paréo, au retour de la plage, elle enlèvera pas le haut. C'est dommage, le portrait qui fait rire, du permis de conduire, celui qui fait peur.
Benabar sur Europe 1 avec un extrait des épices du souk du Caire. On parle aujourd'hui de généalogie, Franck.
Et Hélène nous dit par internet, je suis une passionnée de généalogie depuis 25 ans. Et bien qu'ayant trouvé beaucoup de choses, j'aurais besoin d'une deuxième vie. Ça me fait rire parce que moi je connais des généalogistes très passionnés aussi qui sont complètement, qui vivent
investis
littéralement avec leurs ancêtres. Lorsqu'ils découvrent, c'est assez fascinant d'ailleurs, lorsqu'ils découvrent les circonstances de la mort d'un ancêtre dont ils avaient établi simplement les dates, ils sont tristes comme s'ils venaient de perdre un proche. C'est assez extraordinaire. C'est mon plus gros problème, nous dit Hélène, ce besoin d'une deuxième vie. Mais comme je suis passionné, je ne suis pas intéressé par une généalogie toute faite. Les recherches m'intéressent autant que les trouvailles que je fais. Ah, ça c'est toute l'émotion lorsque vous êtes dans le fond d'archives de trouver la pépite que vous attendiez. Quelle bonne idée, cette émission sur la généalogie. J'anime du reste un atelier généalogie en banlieue nord de Rouen, nous dit Hélène. Il y a comme ça énormément de passionnés qui, disons-le bien, Mathieu Andriveau, ne font pas du tout le même métier que vous. Eux, ce sont, si je puis dire, des amateurs qui, à titre privé, font des recherches sur leurs propres ancêtres. C'est quasiment un sport.
Écoutez, on est tous des amateurs qui sont devenus des professionnels. Mais la vraie différence, c'est que moi, je recherche des vivants. Comme un saule pleureur, l'arbre généalogique que je produis au notaire est composé de gens qui sont évidemment décédés. Mais in fine, je retrouve des gens qui sont bel et bien vivants. C'est eux la continuation juridique du défunt.
Et qui sont, on le remarque évidemment à de nombreuses pages dans votre livre, qui sont parfois très surpris d'être découverts.
Écoutez, il y a plein de gens très surpris. Je le saurais moins si on venait toquer à ma porte. Les gens nous accueillent différemment selon leur caractère. Et c'est pour cela que mon métier est passionnant. C'est-à-dire que on a affaire à tout le monde. Et que, évidemment, la réaction des gens quand on vient leur apprendre qu'ils sont héritiers dans une succession est vraiment différente. Elle va d'un grand sourire, cette réaction, à effectivement la possibilité d'être mise en joue par un fusil de chasse.
Vous racontez l'histoire de ce prisonnier. Il faut raconter ça, cette histoire de Fresne à Fleury-Mérogis.
C'est une belle...
Racontez-la.
Alors, oui, effectivement, un de mes collègues, un jour, est allé voir un des seuls héritiers dans une succession, et ce monsieur était malheureusement, puisque ça arrive, à Fleury-Mérogis.
Purgé une peine à Fleury-Mérogis, oui.
Et celui-ci, donc, au moment où il a rencontré le généalogiste, lui a quand même demandé d'où venait l'héritage. De temps en temps, et notamment lorsque nous devons rapporter la mort de gens proches, eh bien, il est difficile de garder le secret. Et donc, le généalogiste lui a dit, écoutez, monsieur, vous êtes héritier d'une dame qui est décédée pas loin d'ici, dans le Val-de-Marne. Et cette dame était propriétaire, elle est décédée à Fresnes. Et elle était propriétaire d'un petit pavillon qui donnait sur la prison de Fresnes. Voilà.
C'était d'une prison l'autre. Finalement, avec les droits de succession, il a dû la revendre, la maison.
Écoutez, les droits de succession étant très élevés en France, cette maison, il n'a pas pu la garder. Elle a été vendue, heureusement pour lui.
Des histoires cocasses comme ça, il y en a énormément dans votre ouvrage. Hein. Donc, un livre de Jean-Marie, c'est votre père.
Exactement.
Mathieu et Cécile Andriveau. Petites histoires de généalogie avec une préface d'un grand monsieur que nous saluons toujours et qui est venu déjà nous rendre visite ici. Il reviendra, c'est Jean Favier, bien entendu. Comment procède-t-on? Alors entrons un peu dans la technique. Comment est-ce qu'on trouve les ancêtres d'un... Pas les ancêtres, mais en l'occurrence les descendants d'une personne.
Alors, pourquoi la généalogie professionnelle s'est développée en France? Il y a bien une raison. Elle s'est développée avant tout en France et après s'est exportée grâce aux techniques qui ont été mises en œuvre par l'étude, parce que l'état civil français a été composé de sorte à ce qu'il soit extrêmement bien fourni et bien rangé. Hein, avant, l'édit de Villers-Cotterêts avait prévu que l'état civil, qui n'était pas l'état civil, les registres paroissiaux soient tenus par le clergé.
Cet édit de Villers-Cotterêts, c'est un édit qui est pris par François Ier et qui a deux, parmi un très grand nombre de décisions du reste, mais qui a deux implications très importantes. D'une part, l'utilisation du français dans les actes officiels et d'autre part, donc, la création d'un état civil, si l'on veut, en tout cas, de registres paroissiaux qui vont permettre d'avoir, de suivre les sujets français de leur naissance à leur mort grâce à des actes de naissance, enfin de baptême, et d'inhumation.
Voilà, et de mariage.
Et de mariage. Hein,
comme ça, les gens ne pouvaient pas se marier plusieurs fois. Hein. Et puis vint la République, 1892, et fut créé l'état civil,
moment,
comme
déjà.
On le connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Hein, c'était un civil dont l'autorité était celle des communes. Et les communes ont dû donc prendre en charge la création de cet état civil et avec la création, évidemment, des officiers d'état civil.
Maintenant, vous travaillez avec les municipalités, en fait.
Alors, on travaille, évidemment, grâce au procureur de la République qui nous donne l'autorisation de voir les actes de moins de 75 ans, parce que vous savez qu'en France, France, on n'a pas le droit, le vulgus pecum n'a pas le droit de voir les actes de moins de 75 ans, ce qui était moins de 100 ans il y a peu. Et évidemment, le métier de généalogiste, c'est un métier de mouvement ou d'artisanat, j'aime à dire, d'artisanat, où les gens se déplacent évidemment dans les communes françaises à compulser les actes d'état civil, de naissance, de mariage et de décès. C'est la base de notre travail. Bien sûr, la France n'est pas que composée de l'état civil. On peut travailler avec des registres de matricule. Hein, les gens qui...
Qu'est-ce que vous appelez un registre de matricule?
Un registre de matricule, ce sont les conscrits, les gens qui, à la 21e année,
se présentent pour, leur service militaire.
Et puis, on les suivra. Le ministère des armées les suivront jusqu'à la fin de leur qualité de combattant, si vous voulez, en notant leur mouvement sur le territoire, en les suivant, en expliquant s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants. Il y a aussi évidemment les recensements de population. Les recensements de population sont fondamentaux dans notre métier. Pourquoi ? Puisqu'ils ont été extrêmement bien faits. Tous les 5 ans, sauf en période de guerre, malheureusement, hein, où ce n'était pas comme aujourd'hui des déclarations, mais des agents recenseurs qui venaient dans les foyers de chacun et on comptait et on nommait les gens qui étaient dans chaque foyer.
Il vous arrive de faire des recherches en dehors de la France ?
Alors évidemment,
c'est plus compliqué là.
Évidemment, vous imaginez bien que la France étant le creuset d'énormément de populations, et notamment depuis le début du XXe siècle, je parlerai ici que des Polonais venus dans le nord de la France, des Italiens qui ont quitté le nord de l'Italie, des Portugais qui plus récemment ont quitté les régimes durs, et les Espagnols. Hein, qui sont passés les Pyrénées et qui eux d'ailleurs les Espagnols, c'est drôle, venaient en France et ils avaient encore peur du régime de Franco. Et donc ils arrivaient dans les préfectures et ils ne donnaient pas forcément leur vrai nom. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un Espagnol qui décède en France, eh bien il est pas rare de se rendre compte que la personne n'a jamais existé et qu'il était en fait né sous un autre nom.
La clandestinité est l'ennemi de votre métier, comme les enfants naturels sont les ennemis de vos confrères amateurs, si je puis dire. Il n'y a rien qui terrorise davantage un généalogiste que de lui dire que son arrière-arrière-grand-mère avait peut-être fauté. Vous verriez, dites ça si vous avez des amis généalogistes, vous verrez la tête qu'ils font, ça les rend fous.
Et oui, mais c'est aussi un problème pour les généalogistes professionnels, puisque aujourd'hui les enfants naturels ont les mêmes droits que les enfants légitimes.
Ça, ce sont des sujets qui concernent, j'ai envie de dire, plutôt Elena Morna qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Et je me dis que vous pourriez parler notamment de toute la question du tiers restant.
Ce que vous venez de dire, effectivement, mon père qui était réfugié politique ici en France, qui venait du Portugal, et bien figurez-vous, quand il était décédé, j'ai été obligée de me réinscrire au consulat, d'inscrire son mariage, parce que tout ça, effectivement, il ne l'avait pas fait.
La famille Andrivaux, avec une préface de Jean Favier de l'Institut, Petites histoires de généalogistes, c'est aux éditions du Cherche Midi. Et puis, nous nous sommes rendus compte avec Lorena tout à l'heure, vous allez dire
votre
que
collaboratrice
vous fait partager la cuisine de l'émission, mais nous n'avons pas fait de bande-annonce pour la semaine prochaine. Et comme là, je n'ai plus le temps de le faire, eh bien, permettez-moi de vous annoncer quelques sujets. Le Père Joseph, vous savez, l'éminence grise de Richelieu, nous en parlerons lundi. Mardi, nous reparlerons de trésors, mais de tout autre trésor, et notamment de celui de Rennes, le château. Nous évoquerons l'impératrice Sissi mercredi. Nous irons au Quai des Orfèvres, 36 Quai des Orfèvres, sur les pistes d'un certain Jules Maigret jeudi. Et puis, puisque vendredi nous serons le 11 novembre, on parlera évidemment de la Grande Guerre et nous le ferons en compagnie de Jean Sévillat.